Vous écoutez, on lit pour vous.
La rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse, l'essentiel est invisible pour les yeux. Des propositions de lecture de Vicky Sans Façon, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Au début, il y avait une simple plante verte pleine de vie. On commanda un pot et de la terre pour qu'elle puisse grandir en santé. Mais sur la page du fleuriste, une publicité attire l'attention. En plus du pot, pourquoi ne pas se procurer un bureau, une chaise et des lampes? Et une fois ces essentiels achetés, pourquoi ne pas s'offrir quelques babioles à paillettes et une machine à slush chromée? Alors que le balai des livraisons s'accélère, les boîtes vides prennent tranquillement la place de la plante que l'on a tant aimée. Attention fragile! Un album sans texte, signé Liliane Boucher, Jean-François Guilbeault et Vig, chez Bayard Canada, illustre avec humour les étourderies propres à notre société de consommation qui, engourdi par les excès, vient à oublier l'essentiel. De l'essentiel, il en est justement question. Dans l'album « Te souviens-tu » chez Comme des géants. Blottis dans le lit de leur nouvel appartement, une maman et son fils échangent leurs souvenirs préférés. Si certains sont lumineux et sucrés, et que d'autres sont plus étonnants et embaument l'orage, chacun renferme cet être aimé parti trop tôt. Et bien que la maison où se sont forgés ces souvenirs soit maintenant loin, la maman et son garçon sont prêts pour un nouveau départ, à la fois doux et triste. Par une suite de petites vignettes, l'auteur et illustrateur Sidney Smith nous offre une méditation sensible sur la nécessité de chérir la mémoire de nos disparus pour avoir la force de se projeter vers l'avenir. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse, l'essentiel est invisible pour les yeux. Des propositions de lecture de Vicky Sans Façon, parues le 3 septembre 2024, dans la revue Les Libraires.
La Corée du Nord mènerait des expériences sur les personnes handicapées, alerte l'ONU, un texte de l'agence France-Presse, paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir. Des informations crédibles existent selon lesquelles la Corée du Nord mène des expériences médicales sur les personnes handicapées, les stérilisant de force ou tuant des nouveaux-nés, a affirmé un comité de l'ONU mercredi. De telles pratiques auraient lieu dans des établissements pédiatriques et des centres de détention, selon le Comité des droits des personnes handicapées. Des informations crédibles indiquent que des expériences médicales et scientifiques sont effectuées sur des personnes en situation de handicap psychosocial et ou intellectuel, indique le comité dans un rapport. Il s'est montré alarmé face aux informations faisant état de femmes porteuses d'un handicap qui sont soumises de force à des stérilisations et des avortements. Le comité est aussi profondément préoccupé par des informations crédibles faisant état d'infanticides d'enfants handicapés, y compris dans des établissements médicaux. Au moment de la présentation du rapport aux journalistes, une membre du comité, Mara Gabrier, a expliqué qu'il avait également entendu parler de personnes handicapées qui étaient utilisées sans leur consentement pour des essais cliniques. Mensonge, dit Pyongyang. Elle a souligné que le comité avait demandé à la Corée du Nord de criminaliser immédiatement toutes ses expériences, de garantir une surveillance indépendante des institutions concernées et d'établir des mécanismes pour que les victimes obtiennent réparation. Les personnes handicapées ne sont pas des objets d'expérimentation, mais des êtres humains qui ont droit à l'intégrité physique, à l'autonomie et au respect, a-t-elle martelé. Le rapport du comité repose sur des informations confidentielles, des informations du rapporteur spécial de l'ONU sur la Corée du Nord, qui s'y était rendu en 2017, ainsi que sur des témoignages de personnes ayant fui cet État très fermé. Madame Gabrielle regrette que la Corée du Nord n'ait pas fourni au comité de données officielles et que, lorsque ces préoccupations ont été transmises aux autorités nord-coréennes, l'État a déclaré que c'était un mensonge. Selon le comité, la Constitution de la Corée du Nord n'interdit pas explicitement les discriminations fondées sur le handicap. Il dénonce par ailleurs le fait que les personnes handicapées continuent d'être stigmatisées dans ce pays, ainsi que l'approche à deux vitesses avec, d'un côté, les anciens combattants porteurs de handicap qui bénéficient de traitements spéciaux, tandis que les autres personnes handicapées se voient privées de certains services. Le comité est aussi préoccupé par le fait que les personnes handicapées en détention sont soumises à des traitements dégradants, selon le rapport. C'était « La Corée du Nord mènerait des expériences sur les personnes handicapées, alerte l'ONU », un texte de l'agence France-Presse, paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir.
L'athlétisme et la natation, des sports inclusifs aux Jeux du Canada. Un texte de François-Pierre Dufault, paru le 19 août 2025 sur le site de Radio-Canada. Aux Jeux du Canada, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, l'athlétisme et la natation accordent une place égale aux athlètes valides et aux athlètes en situation de handicap physique ou intellectuel. Malgré leurs différences, tous ces jeunes sportifs partagent une détermination commune. Tyler Robinson, 25 ans, participe à ses troisièmes Jeux du Canada. Le nageur originaire de Saint-Jean-de-Terre-Neuve se dit fier de compétitionner à ce haut niveau dans sa ville natale. « Je me sens gonflé à bloc », dit-il. Jade Harvey, originaire du Québec, dit qu'elle adore son expérience, même si les compétitions sont parfois difficiles. « J'aime Terre-Neuve et nager vite », confie-t-elle. Dans la première semaine des compétitions, la paranageuse Veronica McLellan de l'Île-du-Prince-Édouard a remporté deux médailles de bronze, aux 400 mètres nage libre et aux 100 mètres d'eau. « C'est une expérience magnifique. Je suis contente d'être ici », dit-elle tout en saluant le travail de ses entraîneuses. Âgée de 14 ans, l'athlète originaire de Charlottetown est la première nageuse insulaire à gagner deux médailles dans l'histoire des Jeux du Canada, toutes catégories confondues. Ses médailles en paranatation comptent au classement de sa province au même titre que les autres sports. C'est pour elle un sentiment de fierté. Veronica McLellan souffre d'une paralysie d'herbe au niveau de l'épaule droite, ce qui affecte principalement l'amplitude de ses mouvements. Son entraîneuse adjointe, Eddie Rogers, est également physiothérapeute. Citation « Je pense que le fait d'être physiothérapeute, ellipse, me donne vraiment l'avantage de comprendre le corps » de Veronica, souligne-t-elle. « Je sais quels mouvements sont sûrs et lesquels ne le sont pas, ce qu'il faut encourager et ce qu'il faut éviter, ce qui me permet de mieux comprendre comment l'entraîner correctement. » Fin de citation. Les résultats de Veronica McLellan donnent aussi une dose d'énergie à ses coéquipières et au reste de la délégation de l'Île-du-Prince-Édouard. « Quand on voit ce qu'elle est capable de faire, ça donne des rêves aux autres. indique Eddie Rogers. C'était L'athlétisme et la natation, des sports inclusifs aux Jeux du Canada, un texte de François-Pierre Dufault, paru le 19 août 2025 sur le site de Radio-Canada.
Malentendant francophone en milieu minoritaire, un double isolement. Un texte de Saad Bouzrou, paru le 11 mars 2025 dans l'Express.ca. Vivre avec une déficience auditive est un défi quotidien. Mais lorsque s'y ajoute la barrière linguistique, l'isolement peut être encore plus grand. En milieu francophone minoritaire au Canada, l'accès aux services en français pour les personnes sourdes et malentendantes demeure limité. Ariane Millette a grandi en tant que personne malentendante dans l'Est ontarien, un milieu où la majorité des échanges se faisaient en anglais. Comment a-t-elle vécu cette expérience? Difficilement, répond-elle simplement. Tout le monde parlait anglais autour de moi à Ottawa, sauf ma famille. Même à l'école, durant les pauses, mes amis étaient bien plus à l'aise en anglais. Ils pouvaient facilement changer d'une langue à l'autre. Pas moi, raconte-t-elle par écrit. Dépendante de sa mère pour les services en français, elle a mis des années avant de gagner de la confiance en elle et de réussir à interagir avec des anglophones. Grâce à la lecture, ce n'est pas l'écoute ou les cours qui l'ont aidé à devenir bilingue, mais bien la lecture. Je me suis décidé à lire en anglais parce que je n'étais pas tenté d'attendre après la traduction française d'une série, confie-t-elle. Une immersion linguistique contrainte, mais nécessaire pour évoluer dans un environnement largement anglophone. Si l'apprentissage de l'anglais était un défi, l'accès aux services dans sa langue maternelle en était un autre. Rares étaient les activités sportives auxquelles mes parents m'inscrivaient qui avaient un entraîneur parlant français, relate Ariane Millette. Dépendre des indices visuels devenait alors sa stratégie d'adaptation. Accès limité à la langue des signes des francophones. Même dans la communauté sourde, être francophone apporte son lot d'obstacles supplémentaires. En Ontario, la majorité des malentendants utilisent l'American Sign Language, ASL, car elle est liée à l'anglais, langue majoritaire de la province. Il est donc beaucoup plus difficile de recevoir des services en langue des signes québécoise, LSQ, ou de trouver des interprètes, FR-LSQ, commente Ariane Millette. Une réalité que le directeur général de l'Association des sourds du Canada, Richard Belzile, confirme. Dans un contexte minoritaire, le défi devient la pénurie d'interprètes en LSQ. Les employeurs ou les institutions qui disposent de budgets conséquents, comme les universités ou les hôpitaux, peuvent se permettre d'embaucher des interprètes, mais dans de nombreuses régions, l'offre est quasi inexistante. Un enjeu crucial, la formation des interprètes. Au-delà du manque de services, le problème réside aussi dans la formation des interprètes en milieu minoritaire. Former un interprète en LSQ prend des années, explique Richard Belzile. Il faut être bilingue français-anglais, comprendre la culture sourde et celle des entendants, et savoir adapter le message pour le rendre accessible. Or, les budgets étant souvent limités, cela crée une barrière énorme pour les personnes sourdes qui souhaitent des services en français. Il cite l'exemple d'un malentendant francophone vivant dans une région où l'ASL domine. La seule option, souvent, est d'apprendre la langue des signes de la majorité, l'ASL. Ce n'est pas impossible, mais cela demande un effort supplémentaire considérable. dans la vraie vie. Le principal défi des personnes sourdes et malentendantes reste donc l'accès à la communication. Que ce soit pour réussir économiquement, socialement ou même dans sa vie familiale, la communication est essentielle, souligne-t-il. Or, si la Charte canadienne des droits et libertés interdit la discrimination fondée sur le handicap, certaines limites sont permises. Le directeur évoque le concept juridique de préjudice injustifié, qui sert à déterminer quelles adaptations sont essentielles et lesquelles peuvent être ignorées si elles engendrent un coût ou une contrainte excessive pour une entreprise. Cela signifie qu'un petit commerce, par exemple, n'est pas tenu d'engager un interprète en LSQ ou ASL pour accueillir un client sourd, illustre-t-il. Un besoin criant de ressources éducatives. Karine Jacques-Lafrance, directrice générale du regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens, Réseau, souligne que l'accès aux ressources éducatives en LSQ pour les enfants sourds francophones est insuffisant. Combien de services de garde en Ontario ont des éducateurs capables de communiquer en LSQ? Très, très peu, déplore-t-elle. La surdité touche environ 700 à 1000 enfants francophones en Ontario, dont une centaine avec une surdité sévère ou profonde, rapporte-t-elle. Or, pour assurer un développement linguistique et cognitif équilibré, il est crucial que ces enfants aient accès à une langue visuelle dès le plus jeune âge. S'ils ne sont pas exposés à une langue visuelle avant l'âge de 6 ans, ils risquent une privation langagière qui aura des conséquences sur leur développement cognitif, social et affectif, alerte-t-elle. Elle insiste sur la nécessité de former des professionnels capables de répondre aux besoins des enfants sourds et malentendants en milieu minoritaire. Un roman pour sensibiliser. Ariane Millette est aussi autrice. Son roman, Déchiffrer la tempête, paru aux éditions Urtubise en octobre 2024, plonge le lecteur dans la réalité des personnes malentendantes. À travers ce récit, elle souhaite permettre au lecteur d'avoir une idée de ce que vivent les personnes sourdes et malentendantes. Mon roman donne un aperçu littéralement visuel de la déformation de la parole qu'entend une personne malentendante, et ce, dès le prologue, indique-t-elle. J'entends par cela non seulement les barrières communicatives, mais aussi le parcours d'acceptation de sa différence, l'impact social sur l'individu et sur son entourage, les visites chez l'audiologiste et l'audioprothésiste, précise-t-elle. C'était « Malentendant francophone en milieu minoritaire, un double isolement », un texte de Saad Bouzrou, paru le 11 mars 2025 dans l'express.ca.
L'IA, un tsunami qui bouleverse les habitudes en enseignement supérieur. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 14 août 2025 dans Le Devoir. Les étudiants qui ont recours à l'intelligence artificielle, IA générative, sont de plus en plus nombreux, bouleversant le travail des professeurs de cégep et d'université qui tentent tant bien que mal de s'adapter à cette révolution technologique. Des balises claires de Québec se font pendant ce temps attendre. Tout le monde est affecté par ce tsunami qu'est ChatGPT. Technologie éducative à l'université TELUC, Valérie Psyché. De récentes études montrent d'ailleurs que si l'IA générative est utilisée par une partie des professeurs, cette proportion est significativement plus grande chez les étudiants, qui s'en servent notamment pour les présentations et résumés de longs documents relève la professeure. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut demander des travaux qui permettent à nos étudiants d'apprendre réellement, se demande-t-elle. Selon un sondage mené par la firme KPMG publié en octobre, 59% des étudiants canadiens de 18 ans et plus utilisaient en 2024 l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs travaux scolaires contre 52% l'année précédente. Ce coup de sonde montre par ailleurs que 50% des étudiants qui ont recours à ces outils dans le cadre de leur démarche scolaire pensent ne pas apprendre autant ou retenir moins de connaissances en raison de leur utilisation de ces systèmes. Paresse cognitive ? Est-ce que les jeunes qui utilisent les systèmes développer une certaine forme de paresse cognitive et une diminution de l'usage de leur jugement critique ? À ce sujet, on peut avoir une intuition, mais ça a besoin d'être documenté davantage. Relève en entrevue au Devoir le président de la commission de l'éthique en sciences et en testées, Luc Bégin. Les potentielles conséquences de l'utilisation de l'IA générative sur le délestage cognitif d'étudiants qui verraient leur jugement critique ainsi diminué figuraient d'ailleurs parmi les préoccupations listées dans un rapport sur l'usage de ces systèmes en milieu scolaire 2024 par le Conseil supérieur de l'éducation, CSE et CEST. Plus d'un an plus tard, M. Bégin se réjouit de voir qu'un nombre croissant de recherches se penche sur les questions qui attendent d'être éclaircies quant aux impacts de l'usage de l'IA générative supérieure. Il faut éviter la dépendance à l'IA générative et surtout la perte, la diminution de la capacité d'apprendre, de développer un esprit critique, prévient Mme Psyché. La paresse cognitive, c'est ça qu'on essaie d'éviter. L'IA générative pose par ailleurs une fracture numérique qui existait déjà entre les étudiants ayant accès ou non à des outils technologiques et à une connexion Internet de qualité, grandissent encore davantage. Certains étudiants risquent ainsi d'être favorisés par leur maîtrise plus grande des systèmes d'IA générative et par l'accès aux étudiants, par exemple. Il y a une fracture qui s'agrandit, puis ça va extrêmement rapidement, prévient le chargé de projet pédago-numérique à l'Université du Québec à Montréal, Yves Muhn. Afin de limiter ces inégalités, travailler sur le développement de la compétence numérique des jeunes, le système scolaire québécois est essentiel, estime la présidente du CSE, Monique Broder. Une charge de travail alourdie. En transformant les habitudes des étudiants, l'IA générative a aussi bouleversé celle des professeurs, qui doivent revoir de fond en comble la façon dont ils évaluent les travaux qui leur sont soumis afin de prévenir la tricherie liée à l'utilisation de ces systèmes, souligne la présidente de la Fédération québécoise des professeurs d'université, Madeleine Pastinelli. J'ai déjà eu des travaux d'étudiants qui parlent de ChatGPT en milieu scolaire, ainsi que les problèmes que ça peut soulever. Et les travaux avaient été réalisés par ChatGPT. Lance au Devoir Frédéric Kantorowski, professeur au département de philosophie du Cégep du Vieux-Montréal. Des évaluations qui se font à distance sont ainsi ramenées en présentiel dans les cégeps et universités, puisqu'autrement, c'est trop difficile de déterminer si ça a été effectué ou non avec l'aide de l'intelligence artificielle, souligne Mathieu Arsenault, professeur du département d'histoire de l'Université de Montréal. Parfois, important pour les étudiants qui ont fait une bonne partie de leur secondaire et tout leur cégep pendant la COVID, qui a été marqué par le déplacement massif des évaluations à distance, ajoute-t-il. L'IA générative, en posant un risque évident de plagiat, force les professeurs à retourner à leurs anciennes pratiques d'évaluation pré-pandémique. Il y a plusieurs années, je faisais les évaluations finales à la maison. J'ai ramené tout ça en classe parce que les risques sont beaucoup trop évidents, indique lui aussi M. Kantorowski. Les professeurs doivent eux-mêmes du temps pour se former sur l'IA générative, car si on ne veut pas se faire remplacer par l'IA, il faut comprendre comment elle fonctionne et comment s'en servir, lance Valérie Psyché. Les professeurs voient ainsi leur charge de travail bouleversée et alourdie par cette technologie en constante évolution, note-t-elle. Voyant les pratiques de leurs professeurs être chamboulées par cette nouvelle technologie, des universités ont décidé d'adopter certains principes pour guider leurs employés dans l'utilisation de ces systèmes. Les résultats de cette inégaux, estime Mme Pastinelli. C'est un peu le chaos. Différentes approches étant adoptées par les établissements de la province, constate-t-elle. Comme d'autres, elle attend avec impatience que le ministère de l'Enseignement supérieur présente à l'automne 2025 de l'IA générative qui s'appliqueront à l'ensemble du réseau. C'est important. J'ai très hâte de voir ce qui sera présenté, lance M. Kantorowski. L'IA, c'est un phénomène de société, ajoute-t-il, avec lequel le réseau de l'enseignement devra apprendre à composer. C'était l'IA, un tsunami qui bouleverse les habitudes en enseignement supérieur. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 14 août 2025 dans Le Devoir.
Le guide de l'AQPS nie la souveraineté de la littérature. Un texte de Marina Girardin, paru le 11 avril 2024 dans Le Devoir. Dans son texte publié le mercredi 10 avril, Patrick Moreau dénonce avec raison la publication par l'Association québécoise de prévention du suicide, AQPS, d'un guide d'accompagnement destiné aux auteurs de fiction. Il relève le fait que dans la société thérapeutique contemporaine, l'écrivain doit se plier aux recommandations des spécialistes, adopter les bons comportements qui favorisent la sécurité des personnes vulnérables, faire sien le discours de la bienveillance imposée. J'ajouterai que ce qui exaspère dans ce guide, c'est aussi qu'il assimile la littérature aux autres types de productions artistiques et médiatiques, comme si l'on pouvait comparer la couverture journalistique du suicide de Gaétan Giroir à la façon dont Flaubert dépeint la mort d'Emma dans Madame Bovary. Cet amalgame nie l'ambiguïté fondamentale qui caractérise les grandes œuvres de la littérature universelle. Or, la polysémie du texte littéraire est l'une des raisons pour lesquelles l'appropriation émotionnelle et l'effet d'imitation y sont plus difficiles. De plus, par la mise en ligne de ce guide, l'AQPS laisse entendre qu'elle est la seule à détenir la légitimité pour aborder le suicide, qu'elle réduit de surcroît à un enjeu de société. Ne s'agit-il pas tout autant d'un vaste problème théologique, philosophique et littéraire? Comment s'opère la balance du cœur chez celui qui tourne définitivement le dos au vivant? Dans son essai « Porter la main sur soi », 1976, Jean Améry présente la mort volontaire comme un mystère que devrait pouvoir approcher la littérature en toute souveraineté. On a le droit de discourir obscurément de ce que la lumière du langage clair n'éclaire pas. C'était le guide de l'AQPS nie la souveraineté de la littérature. Un texte de Marina Girardin, paru le 11 avril 2024 dans Le Devoir.